Voici la présentation du texte 3, Le pouvoir des fleurs. Vous avez la version écrite également à votre disposition. Donc pour l'introduction, je vais donc aller très vite. Pour l'introduction, en ce qui concerne les vrilles de la vigne, c'est une série de textes courts aux thématiques variées, écrits de 1905 à 1908, dont le point commun est que Colette se nourrit de son expérience du moment. On est à la période où elle se sépare de Willy et où elle vit avec Missy, la fille du duc de Morny, qui est la destinatrice principale d'un certain nombre de textes dans les vrilles de la vigne. Il y a une dimension autobiographique, mais surtout, ce qui est privilégié dans ce récit, c'est un regard poétique sur le monde, plutôt qu'un compte rendu exact de la réalité. Il y a de nombreux textes qui mettent en scène des personnages loin de Colette et de Missy. Notre texte, c'est un extrait du Dernier Feu, qui est le dernier texte qui est dédié à Missy, la compagne de Colette, donc, et c'est le troisième texte du recueil Les Vrilles de la Vigne. Alors, il s'agit d'une évocation qui est basée sur une description de fleurs, une description florale, et le texte relève du poème en prose. Un poème en prose, c'est une prose poétique, musicale, qui ne respecte pas les structures du poème traditionnel, mais qui utilise certains outils de la poésie, comme le rythme, les rimes et les figures de style, par exemple les images. Donc, on peut donc s'interroger dans ce texte sur la forme d'écriture lyrique qu'utilise Colette dans ce texte, parce que le lyrisme, c'est l'expression de sentiments personnels, ce qu'on a au début du texte, mais bientôt, la personne de Colette s'efface dans le texte pour laisser place au chant du monde. Elle s'inscrit dans la tradition littéraire de la célébration du monde. On peut distinguer dans ce texte deux parties, tout d'abord les violettes du printemps, du présent, et ensuite, deuxième partie, à partir de la ligne 11 jusqu'à la fin du texte, les violettes de l'enfance. Alors, tout d'abord, dans la première partie, le texte s'ouvre par des questions qui empruntent une forme assez particulière de dialogue, dans un registre de langue qui est moitié celui de l'oral, moitié celui de la littérature. On a des questions-réponses, mais sans les réponses. Elles ne sont pas données dans le texte, donc il n'y a pas d'incise, il n'y a pas de guillemets, et donc l'identité de l'interlocuteur n'est jamais dévoilée puisque l'interlocuteur ne répond pas. Donc on peut penser qu'il s'agit de Missy, mais on peut penser également qu'il s'agit d'une question adressée au lecteur à la ligne 2, les reconnais-tu ? Et donc se produit un effet de polyphonie, c'est-à-dire une superposition des voix, qui permet au lecteur d'être lui aussi l'interlocuteur de la narratrice. Ce dialogue est écrit au présent, ce qui donne une impression de vivacité, que la scène se déroule sous nos yeux, et pas seulement dans la mémoire de la narratrice. Et on note une certaine forme de complicité entre la personne qui s'exprime et la personne qui répond sans qu'on ait ses réponses. Parce que le dialogue est quand même restitué dans sa complicité, avec par exemple les correctifs « non, non, tu te trompes ». On peut remarquer donc les nombreux points de suspension qui donnent une petite place en fait aux réponses qui ont été sans doute données. La dernière question qui est posée à Missy, « Les reconnais-tu ?» montre la volonté d'ouvrir les yeux du destinataire sur l'éclosion des fleurs, avec un complément circonstanciel par magie et un complément circonstanciel temporel cette nuit, qui tous les deux traduisent l'autonomie du monde qui s'épanouit loin du regard de l'homme. En fait, l'homme, il est témoin au réveil de l'éclosion des fleurs, mais il n'en est pas le possesseur, il ne maîtrise pas cette éclosion qui paraît donc se faire par magie, mais en fait, cette magie n'est liée qu'à une forme d'ethnocentrisme, puisque le monde s'épanouit loin de l'homme. Alors, la suite du texte se présente comme une description vraiment à distance de l'être aimé. Cette description se fait par petites touches. On entend son rire grave à la ligne 5 et on a une évocation des yeux donc de Missy dans l'expression Le vert de l'herbe neuve décolore l'eau mordorée de ton regard. Ligne 4-5. Il ne s'agit pas en fait de décrire les yeux, mais plutôt d'en suggérer la beauté, la pureté et peut-être l'innocence, puisqu'ils se combinent avec la fraîcheur de l'herbe neuve. On peut s'intéresser tout particulièrement à « décolore l'eau mordorée de ton regard », puisque dans cette expression, la couleur est remplacée par une matière. L'eau et la couleur prend la place de l'adjectif. On n'est donc pas dans une description précise, réaliste, mais plutôt dans une évocation de ce que transmet le regard de Missy. On a donc une description de l'être aimé qui suit en fait un dialogue qui était marqué par une forme de complicité sans doute amoureuse. On a également dans la suite de ce passage une description impressionniste des fleurs. En effet, Colette procède par touche, les couleurs se nuancent les unes les autres et sont définies peu à peu, par ajout de degrés, plus bleu par exemple, ou de comparatif, moins obscur. Donc ici, bleu c'est la couleur et obscur c'est la nuance de la couleur. On a aussi des ajouts de compléments du nom, par exemple le vert de l'herbe neuve. Donc en fait, Colette joue, comme en peinture, du mélange des couleurs et des nuances juxtaposées. La narratrice insiste sur l'incapacité de l'homme à regarder vraiment les choses, comme le prouve l'adverbe négatif « non, non ». Et son ton impérieux, c'est cette taquinerie. On peut bien sûr penser à une taquinerie amoureuse, à un jeu amoureux dans le dialogue, mais également une taquinerie dans le fait de ne pas vouloir regarder avec assez de précision le monde. Il s'agit en fait pour Colette, ligne 8, plutôt que d'analyser le monde, de le vivre en fait par des sensations, en particulier avec l'utilisation du sens de l'odorat, tes narines, le parfum de ces violettes. Et on a ici un effet de synesthésie, c'est-à-dire une attention portée à deux sens en même temps, donc l'odorat mais aussi la vue. Regarde comme moi ressuscité, regarde, hein, qui est répété à deux reprises, à la ligne 8 et à la ligne 9. Et donc cet impératif associe la vue et l'odeur qui fonctionnent ensemble. Enfin, le mot filtre à la ligne, le nom filtre à la ligne 9 reprend la magie du début du texte et est prolongé en fait par le verbe enchanter. On a un champ lexical en fait de l'enchantement, de la magie, et cette magie en fait elle réside dans la puissance magique du parfum des violettes qui permet en fait à Colette de remonter le temps. Donc ce pouvoir magique de la nature, c'est son pouvoir de faire surgir des réminiscences, de faire surgir les souvenirs. On a donc une évocation assez vivante de l'éclosion des violettes au printemps, des lignes 1 à 10. Et puis, dans la deuxième partie, grâce à la mobilisation des sens, et en particulier de l'odeur et de la vue, eh bien, on va glisser de façon insensible dans un souvenir, le lien étant bien sûr l'odeur et la vue des violettes. Donc la transition est très fluide, et c'est une transition qui progresse par reprise. On reprend à nouveau les comparatifs, les superlatifs plus mauve, plus bleu, les comparatifs pardon, plus mauve, plus bleu, qui sont comme un refrain, puisqu'on les avait déjà évoqués dans dans le premier paragraphe du texte, et on les retrouve dans ce deuxième paragraphe. Mais cette fois-ci, en fait, ce sont des phrases qui ont été prononcées dans l'enfance, dans le passé, d'où cette impression de refrain de chanson qui se répète. Et donc, on a donc une invitation à la remémoration, à une expérience qui est à la fois personnelle, qui est propre à Colette, mais qui est universelle, celle de la contemplation des fleurs. Il y a une harmonie vraiment entre le passé et le présent. Le temps demeure identique, on conserve le présent d'énonciation, et on a donc, à partir de la ligne 11, une hypotypose qui se met en place, puisque on assiste on a une description des violettes du passé équivalente aux violettes du présent. On a une accumulation d'éléments qui permettent de donner tous les détails qui reviennent à la mémoire de la narratrice. les prés, les bois, les bourgeons, les ruisseaux, les sources, les primes vertes, les genêtres, les violettes, donc l'évocation de la nature, du champ lexical de la nature. Et on a également une accumulation de précision sous forme d'expansion du nom, profond, que la première poussée des bourgeons en brume vers un saisissable froid perdu et bu aussitôt, qui appartiennent au champ lexical de l'apparition et la disparition, ou bien au champ lexical du mystère, qui font en fait que ce spectacle de la nature est une apparition que l'homme contemple mais ne maîtrise pas. Il y a une insistance sur la vue qui montre ce qui est caché, ce qui est secret, comme les sources perdues. Ensuite, on a une forme d'abondance qui s'ouvre. La narratrice, en fait, cherche à montrer la richesse du monde. Et à partir de la ligne 15 et de la reprise des violettes, des violettes, des violettes, qui est centrale, on va avoir de façon plus marquée un style poétique qui fait que ce texte est vraiment assimilable à un poème en prose. Alors, ce style poétique, il est marqué par l'alliance de la précision du vocabulaire des couleurs, par exemple safrané, qui est donc une couleur, la couleur du safran, très précise, mais aussi à des évocations qui sont imprécises, comme en brume, insaisissable. Et donc, on a une puissance suggestive de la description. Le style poétique vient aussi des nombreuses sonorités en P et en B, ou des assonances en ou et en on. Je revois des prés, des bois profonds, que la première poussée des bourgeons en brume d'un vers insaisissable. Le rythme ternaire, des violettes, des violettes, des violettes, montre vraiment une forme presque d'extase de la narratrice face à la vision de ses souvenirs. Et en fait, cette répétition a une valeur presque incantatoire. Quand on incante, en fait, il s'agit de chanter et de chanter pour faire venir ce dont on évoque le nom. Donc, on a vraiment ici une prose qui est assimilable à une chanson, à un chant, à de la poésie. Suit en fait une évocation de l'enfant qu'a été Colette, une évocation qui semble paradoxale puisqu'il est question à la ligne 16 d'une enfant silencieuse, mais enchantée d'un bonheur sauvage. Et on a l'oxymore à la ligne 17, triste et mystérieuse joie, qui montre en fait cette contradiction qui réside dans la tristesse de la perte du monde, de l'enfance, mais le plaisir aussi du souvenir de ce monde de l'enfance. Dans la suite du texte, à partir donc de la ligne 17, c'est quand même le plaisir qui l'emporte sur la nostalgie, et on a une évocation vraiment lyrique des violettes dans leur richesse et leur variété. Donc on a une description très répétitive qui vise à englober tous les types de violettes, à courte tige, blanche, bleue, du coco anémique, large. Le jeu en fait de Colette s'efface au profit des violettes. La répétition du mot violette, qui est quand même répétée 7 fois, et l'interjonction lyrique « aux violettes » montre que Colette éprouve du plaisir à s'effacer et éprouve du plaisir en fait à évoquer ses fleurs. Elle n'oublie pas. Alors, je suis allée un peu vite pour le haut qui n'apparaît qu'à la ligne 22, donc je reviens un petit peu en arrière. Colette n'oublie pas d'évoquer même les violettes les plus modestes ou les plus abîmées à la ligne 20. Par exemple, 20-21, en les montrant abîmées, donc déchiquetées, roussies de gel, laides de rhône, pauvresse parfumée. Ce sont des adjectifs ou des expansions du nom qui englobent quand même les violettes, même lorsqu'elles ne sont pas considérées comme des fleurs parfaites. La dernière phrase du texte, avec donc l'interjection O, qui est une interjection lyrique, s'adresse aux violettes, vous montez devant moi, et en fait, dans cette phrase, la narratrice rend à la nature sa liberté, avec une allitération en P qui marque la montée de l'évocation des violettes, comme si les violettes grandissaient dans la vision qu'en a Colette. Et là encore, cette multiplication des violettes avec tous les petits visages des violettes qui sont évoqués, évoque la technique des peintres impressionnistes qui procèdent en fait par multiplication de touches de peinture. Ici, les violettes sont personnifiées avec l'expression petit visage. Et donc, on a, comme souvent dans le recueil de Sidot, mais aussi dans les Vrilles de la Vigne, une personnification de la nature qui est considérée comme l'égale de l'homme et qui donc acquiert des caractéristiques humaines. D'un point de vue musical, la phrase se développe et prend de l'ampleur. On a donc, au final, vraiment une volonté d'exhaustivité, c'est-à-dire de saisir le tableau dans toutes ses nuances et dans toute la multiplicité que les violettes peuvent offrir. On a en fait une forme de champ de la variété, et surtout ce que célèbre Colette, c'est la renaissance du printemps, le pouvoir de renaissance de la nature. Alors en conclusion, on a donc un poème en prose avec tous les éléments qui correspondent à cette forme de prose, puisqu'on a une célébration, une énonciation à la première personne, un chant, du rythme, et avec des figures de style très marquées comme la personnification, l'hypotypose. Et on a aussi à noter une forme de lyrisme particulier, puisqu'en fait on a petit à petit dans le texte un effacement du jeu. On avait déjà un effacement du locuteur dans le premier paragraphe, puisqu'on ne savait pas à qui Colette s'adressait, mais dans le second paragraphe, c'est Colette elle-même, ou en tout cas la personne qui dit jeu, qui s'efface, et donc on a un lyrisme original dans lequel on a bien un chant du monde, une célébration de la nature, et l'expression de sentiment face au spectacle de la nature, mais sans une présence marquée du jeu. En ouverture, on pourrait faire un parallèle entre Colette et le peintre Monet, qui a peint de nombreux tableaux représentant donc de nombreux tableaux impressionnistes représentant son jardin. On peut penser en particulier au nénuphar qui se trouve exposé au musée de l'Orangerie à Paris.